Radio, cité Genève.
Genève internationale. Epiphana Monfau.
Bonjour et bienvenue dans cet autre numéro de ce magazine. Ce n'est un secret pour personne, l'ONU traverse une crise financière aggravée par les retards de paiement de contributions de ses membres, notamment des États-Unis. Bien que ces difficultés ne soient pas nouvelles, elles révèlent une pression croissante sur le système multilatéral alors que les États priorisent leurs intérêts nationaux. Tout récemment, le Club suisse de la presse et la plateforme Geneva Solutions ont organisé un débat sur le thème « Derrière la pénurie de liquidités de l'ONU, un système multilatéral en crise » avec des panélistes tels que Michael Muller, ancien directeur général de l'ONU Genève, Maya Ungar, analyste de l'ONU à l'International Crisis Group et Michel Langrand, journaliste à Geneva Solutions. C'est d'ailleurs avec cette dernière que nous allons échanger. Bonjour Michel Langrand.
Bonjour.
Quelles sont les raisons sous-jacentes des difficultés financières actuelles de l'ONU ?
Alors, quand on parle des difficultés financières qui traversent l'ONU, on parle vraiment en ce moment de son budget vraiment régulier qui est financé par les contributions obligatoires des États. Donc, les difficultés en ce moment qui traversent, c'est que un certain nombre des pays n'ont pas payé ce qu'ils devaient, et qui s'étaient accepté de payer pour le budget de cette année, notamment les États-Unis. Il faut savoir que le budget, la manière dans laquelle il est fait, c'est chaque pays a un pourcentage de ses budgets qu'il doit payer. Et donc les États-Unis, étant donné qu'ils ont une grande économie et plein d'autres facteurs, ils payent 22% en fait de ce budget. Alors les États-Unis, normalement, ils ont l'habitude de ne pas payer à cause des lois qui sont passées il y a très très longtemps. Ils ne payent pas à temps, donc ils payent souvent en retard. Mais cette fois-ci, à cause de la dynamique politique dans le Congrès américain, ils n'ont pas passé des mesures provisionnelles qui permettent en fait de payer petit à petit ce qu'ils doivent aux Nations Unies. Et c'est ça qui a mis les Nations Unies en situation de difficulté. Et pour l'instant, il y a encore 1,7 milliard de 3,6 milliards de dollars du budget régulier de l'ONU qui manque.
En quoi les conditions imposées par certains pays donateurs sur l'utilisation des fonds de l'ONU reflètent les tensions géopolitiques mondiales, puisqu'aujourd'hui, les États-Unis ont un peu conditionné leur contribution à résoudre certains conflits dans le monde.
Alors, les États-Unis ont depuis très très longtemps justement imposé cette règle comme quoi ils payent en retard pour pouvoir justement utiliser leur pouvoir, un peu pouvoir faire pression sur les Nations Unies d'agir en direction de leurs intérêts. Alors, ces derniers temps, on voit un peu une réactivation de cette méthode et on le voit très clairement avec la dernière approbation du budget aux États-Unis où des nouvelles mesures visant à pénaliser les Nations Unies lorsqu'il s'agit de la question de la Palestine ont été passées, notamment l'interdiction de financer la commission d'investigation sur les territoires occupés palestiniens, mais aussi, on l'a vu aussi, l'agence pour l'aide des Palestiniens, l'UNRWA. On a aussi, on a eu ce vote à l'Assemblée générale vendredi, où les États ont donné plus de privilèges à l'État de la Palestine, qui est un membre observateur pour l'instant des Nations Unies. Alors, l'ambassadeur israélien a rappelé aux États-Unis qu'ils ont une loi qui leur interdit justement de financer les organisations internationales qui reconnaissent les Palestiniens comme membres. C'est ce qui a justement amené les États-Unis à quitter l'UNESCO en 2011. Et donc, on voit une possibilité, voir un retour de ce discours, une montée en puissance de ce discours, notamment en année électorale.
Les États-Unis ne sont pas les seuls en retard dans ces donations. Comment justement ces retards de paiement des contributions des États membres des Nations Unies ont-ils évolué au fil du temps et quelles sont leurs conséquences immédiates ?
Alors, si vous me demandez sur les autres, comment les autres, il faut savoir qu'à la fin de l'année, il y a toujours un nombre, une quarantaine de pays qui ne payent pas, qui n'ont pas payé encore. Il faut savoir que les pays, il y a une règle comme quoi, à partir de 2 ans de ne pas avoir, 2 ans de retard, ils peuvent perdre leur droit de vote à l'Assemblée générale. Alors, bien sûr, il y a des exceptions qui sont mises en place lorsqu'un pays prouve qu'il a une difficulté financière pour payer ses contributions. Et dans ces cas-là, il y a des arrangements qui se font pour qu'ils payent petit à petit. Ce qui concerne un peu la situation un peu inédite cette fois-ci, c'est qu'à la fin de 2023, on a vu le plus bas, taux de contribution payé par les pays. Et donc c'est ça en fait qui a justement fait que le secrétaire général Antonio Guterres a dû leur remonter les bretelles, leur dire maintenant c'est vraiment sérieux.
A contrario, il y a la montée en puissance de nouveaux donateurs tels que la Chine. Comment cela peut-elle influencer sur la dynamique financière de l'ONU ?
Alors, il est vrai qu'on voit d'autres acteurs qui se positionnent. Et il faut dire, la Chine en est un, que dans les dernières 10 années, il a quand même augmenté ses contributions, pas seulement à l'ONU, mais en général, tout ce qui est en rapport avec le développement. On a aussi, par exemple, l'Allemagne, qui a beaucoup augmenté, mais c'est ses contributions. Là, on parle vraiment des contributions volontaires. Donc là, c'est vraiment souvent ces contributions volontaires, elles sont guidées par des intérêts nationaux du pays. La Chine, bien sûr, ça a été beaucoup question de est-ce que ces contributions, elles sont liées à son grand projet des routes de la soie. Et donc, c'est pour ça qu'ils augmentent leur aide en assistance en développement.
Dans quelle mesure les défis financiers de l'ONU pourraient-ils compromettre la capacité ou sa capacité à atteindre les ODD, les objectifs de développement durable fixés pour 2030 ?
Alors, de toute façon, ça, c'est... ils sont déjà en difficulté. Donc, il est clair que lorsqu'on voit que les pays, l'ONU, et puis aussi ses activités, pas juste l'ONU, mais les activités qu'ils représentent, que ce soit l'aide humanitaire, l'aide au développement, deviennent moins une priorité pour les pays. Lorsqu'on voit, en fait, un pays qui ne paye pas, ce qui n'est pas un chiffre énorme, mais c'est juste le montant qu'on lui demande de donner. Les autres contributions volontaires, ils ne sont pas obligés de donner ça. Mais lorsqu'ils ne s'acquittent pas de ce devoir, ça envoie un message comme quoi, en fait, ce n'est plus une priorité pour lui. Et donc, on peut se demander si vraiment les ODD restent une priorité pour ces pays, quoi.
Est-ce que, selon vous, les organisations de la société civile et les acteurs non étatiques peuvent contribuer à soutenir financièrement l'ONU et atténuer ces difficultés ?
Alors, je pense que, justement, beaucoup de ces acteurs sont en difficulté financière eux-mêmes. Et ça me fait penser, justement, à une discussion que j'ai eue avec la chef de UNFPA, le Fonds pour la population, qui je lui ai demandé est-ce que vous êtes préoccupé par une nouvelle présidence Trump, et elle m'a répondu je suis moins préoccupée pour moi-même mais plus préoccupée pour les organisations sur place, en fait, c'est eux qui vont en fait être impactés par le manque de financement. Et au final, même l'ONU, ils travaillent en lien souvent avec des acteurs locaux. Donc, si ces acteurs locaux, ils n'ont pas de financement, l'ONU aussi est impactée.
Pour terminer, Michel Langrand, et à votre avis, quelles sont les mesures les plus urgentes que les États membres devraient prendre pour garantir la stabilité financière de l'ONU et renforcer son efficacité dans un monde en évolution rapide ?
Alors, je pense que, et là, ils ont une opportunité un peu en or qui se présente. Ils devraient réfléchir déjà à comment reformer le système financier de l'ONU de manière que ces genres de situations puissent être évitées. Je pense que le fait qu'un seul acteur puisse avoir un impact si grand au final sur les opérations de l'ONU, c'est-à-dire les États-Unis, et quand même, on devrait susciter des questionnements et se dire, OK, comment on peut diversifier ou en tout cas avoir des mesures qui, en fait, limitent cette marge de manœuvre pour les États, mais qui augmente la marge de la manœuvre, par exemple, du secrétaire général. Mais aussi, en fin de compte, ça va être les États qui vont décider. Donc, ça sera à eux d'avoir la volonté de le faire.
Merci à vous, Michel Langrand, journaliste à Geneva Solutions, la plateforme. Vous interveniez au sujet donc de cette table ronde, de ce débat qui a eu lieu tout récemment au Club Suisse de la Presse avec pour thème « Derrière la pénurie de liquidités de l'ONU, un système multilatéral en crise ». Merci également à toutes et à tous et belle suite de journée sur Radio Cité Genève 92.2 FM.